Bonjour à tous, bienvenue dans Rue des Écoles, le rendez-vous de l'éducation de France Culture. Rue des Écoles, tous les mercredis jusqu'à 16h pour aborder les questions d'enseignement de la maternelle à l'université. Et justement, nous y voici à la fac en direct et en public de l'université Pierre et Marie Curie pour la Welcome Week. Welcome, welcome. Mais l'université française est-elle vraiment accueillante? Nous en débattons aujourd'hui avec des étudiants, des chercheurs et des enseignants. Rue des Écoles, attachée de production Geneviève Méric, Alexandra Malka à la réalisation. Vous pouvez écouter cette émission en différé ou mieux vous abonner au podcast sur franceculture.fr. J'attends aussi vos commentaires sur le site de Rue des Écoles ou en direct sur Twitter. Nous vous répondrons, nous vous retweetons et notre hashtag c'est RDE. Et nouvelle formule de Rue des Écoles cette saison, une formule grand format avec un nouveau rendez-vous, le Grand Amphi de Rue des Écoles, l'actualité du supérieur donc, en partenariat avec l'étudiant.fr et avec vous, Marie-Caroline Missire, bonjour.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, vous nous parlez des communs.
Oui, qu'est-ce que c'est les communs? Ce sont des communautés d'établissements et d'universités, je vous en dirai plus tout à l'heure en fin d'émission.
Avec votre invité, rendez-vous à 15h50 et comme chaque semaine, Libby Cousteau est à mes côtés. Bonjour Libby.
Bonjour.
On attend avec impatience votre question, ce sera en milieu d'émission.
France Culture, Rue des Écoles.
Louise Touret.
Bienvenue à la fac, donc en direct et en public de l'Atrium de l'UPMC. Je suis arrivée au son de la musique de la chanteuse Beyoncé. C'est la Welcome Week à l'université Pierre et Marie Curie. Université qui se situe tout près de la rue des Écoles. Une rue qui commence donc au pied de la tour de Jussieu, qui va jusqu'à la rue de l'École de médecine en passant par la Sorbonne. Et oui, le quartier latin est toujours un quartier de faculté au XXIe siècle. Mais le paysage universitaire a bien changé et change encore. Nous le verrons donc en fin d'émission. Aujourd'hui, surtout en France, 80% d'une génération arrive au niveau du bac. On peut donc parler de massification réelle de l'enseignement supérieur. Et c'est peut-être cette massification du public universitaire qui pose la question de l'accueil des étudiants de manière encore plus cruciale. Comment penser, repenser l'offre pédagogique pour les étudiants d'aujourd'hui, l'organisation de l'université, comment penser une orientation peut-être plus efficace à et dans l'université et une arrivée plus douce dans ce nouvel univers. Bref, puisque c'est la Welcome Week, puisqu'on nous dit bienvenue à la fac, nous allons nous demander si l'université française est vraiment accueillante pour ses étudiants. Sophie Orange, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence en sociologie à l'université de Nantes, spécialiste de la jeunesse étudiante. Vous avez publié l'autre enseignement supérieur au PUF et un autre livre au titre éloquent, l'université n'est pas en crise, les transformations de l'enseignement supérieur, enjeux et idées reçues aux éditions du Croquant avec Romuald de Baudin. Deux étudiants avec nous aussi, Jenanon Meilanandam, bonjour.
Bonjour.
Vous arrivez donc en MIPI, qu'est-ce que c'est MIPI?
C'est une section que propose l'UPMC, c'est maths, informatique, physique et ingénierie.
Et vous arrivez après une année en prépa. Vous allez nous raconter tout ça. Julie Trancard, bonjour.
Bonjour.
Vous avez eu votre bac cette année.
Oui, c'est ça.
Félicitations. Et vous êtes inscrit en BGC 17. Qu'est-ce donc?
C'est ça. C'est biologie, géosciences, chimie et section 17, donc une section renforcée.
Vous nous en direz plus également tout à l'heure. Deux enseignants de l'UPMC qui s'occupent particulièrement de l'accueil des étudiants aussi avec nous. De l'accueil des étudiants, Najatek Vorian, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes enseignante, chercheure en biologie et physiologie végétale, et aussi Fabrice Chemla, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de chimie et vice-président pour la formation initiale continue à l'UPMC, en charge de la politique d'intégration des nouveaux étudiants. On y vient, à l'accueil de ces nouveaux étudiants. Qu'est-ce que la Welcome Week, tout d'abord? Pourquoi ça s'appelle comme ça? En quoi ça consiste? Qu'est-ce que c'est, une fête de bienvenue?
Alors, la Welcome Week, c'est en fait une semaine dans laquelle on essaye de présenter aux étudiants l'ensemble des activités de l'université, bien évidemment l'enseignement et la recherche, mais aussi tout ce qu'ils vont pouvoir faire au cours de leur scolarité, toute la vie étudiante, toutes les associations, de manière ludique et un petit peu détournée par rapport à ce que l'on imagine à l'université comme quelque chose d'un petit peu pesant et compassé.
C'est pour ça qu'il y a un mur d'escalade, c'est pour ça qu'on entend Beyoncé, c'est pour ça qu'il y a une murder party.
C'est pour ça, c'est surtout parce qu'on est là pour étudier, mais on est aussi là pour vivre.
Najat Taghvorian, vous identifiez ça comme une demande des étudiants, une demande de vie, de faire de l'université un lieu de vie et pas seulement un lieu d'études en France ?
Tout à fait, oui. Nous, on est à la rencontre des étudiants quand on les accueille durant les entretiens. Et effectivement, ils sont à la recherche de ce genre d'activité. Et ils sont demandeurs de présence d'associations, de sport, d'activités culturelles.
Alors, on va leur demander à nos étudiants s'ils se sentent bien accueillis. Julie Trancard, vos premiers pas à l'université, comment ça se passe ?
C'est assez sympathique comme accueil. C'est sympa d'arriver dans une ambiance avec des jeux, des lots à gagner. Il y a vraiment du monde pour entourer, y compris des étudiants pilotes qui sont là pour présenter la fac. Et voilà.
Ça vous rassure ? Est-ce que vous aviez des appréhensions ? Est-ce que vous étiez heureuse de venir ? Dans quel état d'esprit étiez-vous avant d'arriver ici à l'UPMC à Jussieu ?
J'étais assez contente de venir puisque c'était une fac qui me faisait déjà très envie de par sa réputation, donc première fac de France. Et ça fait plaisir.
C'est bien que ce soit vous qui le disiez. Ça fait moins comme.
Ça fait plaisir en plus d'être bien accueillie. Donc voilà.
Bon, alors tout va bien. Est-ce que je vois, Jenanon Meilanandam, vous aussi, vous êtes étudiant. Et est-ce que vous partagez ce point de vue ? Est-ce que tout va si bien, l'accueil, tout ça, ça vous va ?
Oui, je partage les idées de Julie.
Pourtant, c'était pas votre premier vœu, l'université ?
Non, au début, non.
Qu'est-ce que vous vouliez faire ?
Au début, je voulais faire une prépa. Mais bon. C'est beaucoup de travail, c'est beau, enfin, c'est en autonomie, enfin, fait tout seul.
L'université aussi, ça va être peut-être beaucoup de travail, mais on est encore qu'au début de l'année. Sophie Orange, quand vous arrivez dans cette université, je ne sais pas comment ça se passe dans la vôtre, à Nantes, concevez-vous, comment voyez-vous cet accueil un petit peu spectaculaire avec des banderoles, de la musique et quelque chose d'un petit peu fun organisé autour des étudiants.
On a l'impression que ça ressemble un peu à un accueil d'une école, du grande école en fait, hein, puisqu'il y a beaucoup de choses qui sont faites pour mettre en avant l'image de l'université. J'ai vu notamment une boutique de souvenirs, donc des choses comme ça. Je trouve que c'est assez intéressant en tout cas de valoriser l'université, de montrer que voilà, il peut y avoir une certaine fierté à venir à la fac après le bac.
Mais vous parlez de fierté, justement, on a l'impression que l'université se décomplexe. Fabrice Chemla.
L'université se décomplexe, l'université n'a en fait jamais été réellement complexée. Elle a été, je dirais, de mon point de vue, un petit peu mise sous le boisseau, ce qui est tout à fait différent.
Et comment, par qui ?
Oh bien, écoutez, il n'est de notoriété publique, et ça, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Bourdieu, qu'effectivement, en France, tout particulièrement, la reproduction des élites passe par, effectivement, un certain profil d'études, et ça, malheureusement, c'est les études de Bourdieu datent des années 60, mais ça n'a pas franchement changé depuis. Et il ne faut pas se faire d'illusions. Ça a effectivement un impact, ça a eu un impact pendant très longtemps sur les politiques nationales. Et il est clair que même encore maintenant, l'université est considérée comme non pas une voie de garage, mais au moins une voie qui ne peut pas se revendiquer d'excellence et d'élite.
C'est pas forcément la voie des héritiers. Et pourtant, si on parle d'une forme de hiérarchie dans le supérieur, on peut aussi mieux décrire ce paysage. Et peut-être avec vous, Sophie Orange, parce que le supérieur, ça peut vouloir dire les grandes écoles, on vient d'en parler, les classes prépa, on en a parlé également, l'université et plein d'autres filières. Comment se situe l'université dans ce paysage de l'enseignement supérieur aujourd'hui ?
Eh bien, en fait, on a l'impression que l'université, elle est un peu la voiture balai de l'enseignement supérieur parce qu'elle est la seule formation qui est ouverte, donc qui est non sélective. Et on a le sentiment que eh bien, les étudiants qui viennent à l'université ne l'ont pas choisi et n'ont pas été choisis. Or, quand on s'intéresse un petit peu aux études et aux chiffres du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, on se rend compte que l'université, elle est dans une position tout à fait intermédiaire au sein de l'espace de l'enseignement supérieur et que les filières qui accueillent le plus de bacheliers professionnels ou technologiques ou le plus de bacheliers d'origine sociale modeste, en fait, ce sont des filières sélectives. Ce sont les sections de techniciens supérieurs qui préparent au BTS et ce sont aussi les IUT, alors qu'ils sont également intégrés dans les universités, mais ce sont aussi les instituts de formation aux soins infirmiers ou les écoles du travail social.
Mais alors, comment expliquer que l'université pâtisse de cette mauvaise image de voiture balai, hein, c'est pas moi qui l'ai dit, ni vous, d'après ce que je comprends. Est-ce que, à travers cette image, il y a aussi du politique, il y a aussi un désir de la transformer, l'université, de la part des différents pouvoirs en place, hein, pour aller jusqu'au bout de votre idée?
Oui, je pense effectivement que l'université, elle dérange d'une certaine manière parce qu'elle est un lieu ouvert qui permet la rencontre d'étudiants qui ont des projets courts, qui ont des projets longs, qui ont des projets professionnels précis, qui ont des projets professionnels qui ne sont pas encore aboutis. Et justement, où il y a un petit peu de... on parle d'abandon, mais de réorientation. Enfin voilà, où il y a un petit peu de jeu. Et c'est vrai qu'un certain nombre d'élites politiques souhaiteraient que les choses soient un petit peu plus cadrées et que, effectivement, eh bien, les publics soient sélectionnés et, sur le modèle un peu plus des écoles, en fait, avec des publics beaucoup plus homogènes, en fait.
Alors, pour l'instant, hein, pas de sélection, évidemment, à l'UPMC. Ce que vous copiez, c'est plutôt voilà, cette forme d'animation qu'on peut trouver dans les grandes écoles. Encore qu'à mon avis, ce soit assez différent, étant donné que les locaux de Jussieu sont bien particuliers, pour ceux qui connaissent, donc avec cette grande tour, ces cours carrés successifs où le vent s'engouffre. En tout cas, il s'engouffrait beaucoup dans les années 90, d'après mes souvenirs. Dites-moi, comment on accueille ces étudiants, comment surtout on les accompagne, Najat Taghvorian, parce que je crois que l'université fait beaucoup d'efforts en ce sens-là pour contrer l'échec, les erreurs d'orientation. Qu'est-ce que ça signifie au quotidien accompagner ?
Alors, si on veut parler d'accompagnement, effectivement, notre objectif, c'est d'améliorer les taux de réussite et l'intégration des étudiants qui arrivent en première année. Donc, alors, je vais parler évidemment de l'expérience de l'UPMC, puisque c'est celle que je connais le mieux. Et effectivement, il y a un certain nombre de dispositifs qui sont mis en place pour justement faciliter l'intégration de ces étudiants qui arrivent en première année. Je peux vous citer quelques exemples comme l'enseignant référent. Dans mon temps, moi, quand j'étais étudiante, on arrivait à l'université et on se débrouillait tout seul. Là, les étudiants en première année ont un enseignant référent qui leur est attitré. C'est au moins un enseignant qu'ils connaissent bien, qui les rencontre.
Et qui les connaît.
Et qui les connaît. Et qui, et bien sûr, et qu'ils rencontrent au moins 4 fois, voire à la demande de l'étudiant. Et donc, il peut être à la fois un conseil pédagogique, mais aussi un soutien, un suivi pour d'autres problèmes. Parce qu'on sait très bien que le taux de réussite des étudiants, ce n'est pas qu'un problème de travail, mais il y a aussi des problèmes sociaux, des problèmes financiers, etc.
Et on va y revenir, voilà. Largement. Mais il y a des différences culturelles très fortes. C'est ce qu'on lit, c'est ce qu'on sent. Quand on passe du lycée à la fac, une différence d'apprentissage. On passe d'un modèle scolastique classique d'apprentissage vertical au modèle universitaire où on doit être beaucoup plus autonome. C'est ça qui pose difficulté aux étudiants d'aujourd'hui, Fabrice Chemla. On va leur poser la question après aux étudiants.
Oui, je crois qu'il faudra effectivement leur poser la question aussi parce qu'ils sont les meilleurs interlocuteurs. Mais je vais rebondir sur ce que vient de dire Sophie Orange. C'est effectivement, l'université est un lieu ouvert. C'est un espace de liberté. Et c'est un espace dans lequel le meilleur étudiant est celui qui est l'autonome, qui sait où il va. Et force est de constater qu'à la sortie du baccalauréat, une bonne partie des étudiants, bien qu'étant considérés comme majeurs de par la loi, ne sont pas considérés par leurs parents, souvent par eux-mêmes, comme des personnes qui sont capables de faire des choix. Et ça, c'est effectivement une difficulté auxquelles les universités font face. Parce qu'effectivement, notre travail, puisqu'il n'a pas été fait au lycée, il est effectivement de leur apprendre, de leur donner les éléments pour être le plus autonome possible, pour pouvoir effectivement déterminer leur projet d'études, leur projet professionnel, car souvent ils ne l'ont pas, et c'est tout à fait logique et normal, et de manière à pouvoir effectivement prendre en main leur propre vie professionnelle, mais aussi personnelle, bien évidemment, et ceci dans les meilleures conditions possibles.
Mais ce qu'on sait aussi, c'est que, et là je me retourne vers vous, Génanon, c'est que les étudiants qui choisissent les classes préparatoires comme vous en première année, c'est bon pour essayer d'accéder à une grande école dans le meilleur des cas, mais c'est aussi beaucoup parce qu'ils n'ont pas encore fait de choix définitif, ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire après. Finalement, ce choix indéterminé, c'est aussi un choix de bon élève et acquérir des méthodes de travail qu'ils vont d'ailleurs recycler dans la majorité des cas à l'université.
Oui, effectivement, mais Enfin, moi, j'ai choisi la prépa surtout pour accéder aux grandes écoles d'ingénieurs. Mais bon, comme vous l'avez dit, je ne savais pas vraiment dans quel secteur travailler, etc. Du coup, la prépa, c'était la bonne solution pour moi. Mais après, ici, à la fac aussi, avec la section MIPI, c'est assez large comme filière. Enfin, on fait des maths, de la physique, ça peut servir dans beaucoup de domaines. Du coup, je pense que ça pourra toujours concorder avec mes idées, mes projets futurs.
Qui sont deux?
Bah,
encore un peu indéterminé.
Quand même, je pense faire, travailler dans l'aéronautique ou quelque chose comme ça. Plutôt.
C'est tout ce que je vous souhaite. Sophie Orange, même question sur l'indétermination qui est aussi le propre du choix en classe prépa. Finalement, on sait très bien qu'on ne va pas forcément aller à Normal Sup ou à Polytechnique quand on choisit cette voie-là.
Oui, effectivement, beaucoup d'étudiants rentrent en classe préparatoire et ne savent pas ce qu'ils veulent faire plus tard. Et quand on regarde un petit peu les chiffres, notamment de l'Observatoire de la vie étudiante, on voit que beaucoup plus d'étudiants qui rentrent à l'université savent ce qu'ils veulent faire plus tard comme projet professionnel.
Et c'est ça qui conditionne la réussite dans les études universitaires ?
Je ne suis pas sûre que ce soit ça forcément qui conditionne la réussite. Je pense que le projet professionnel, en tout cas, est beaucoup mis au centre en fait, des choses. Et disons qu'il y a une certaine pression qui s'exerce sur les étudiants qui rentrent dans quelques filières que ce soit. Et souvent sur ceux qui ne sont pas forcément à la bonne place. Quoi. C'est-à-dire que, par exemple, des bacheliers technologiques ou professionnels qui vont arriver à l'université, on va un peu plus leur demander quel est leur projet professionnel, pourquoi ils sont venus à l'université, alors qu'un bachelier qui rentre en classe préparatoire aux grandes écoles, on ne lui demande pas trop ce qu'il vient faire et ce qu'il veut faire plus tard. Ça ne pose pas vraiment de problème.
Quand bien même son année se termine par un échec relatif.
Exactement.
Pareil, je vais un peu au bout de votre idée. Najat Dakvorian, quand on réoriente un étudiant, comment on fait ? Il change, parce que c'est ça aussi l'accueil, c'est de redéfinir le projet de l'étudiant. Comment ça se discute, ça prend beaucoup de temps. Est-ce que vous avez tous le temps, les professeurs, de vous occuper à ce point-là de vos étudiants, j'allais dire vos élèves ?
Alors, effectivement, on a un très très grand nombre d'étudiants et donc effectivement, il faut s'en
combien
occuper.
Combien d'étudiants d'ailleurs
en première
à l'UTMC
année
Vas-y.
Bon, en première année, on en a 2200 cette année.
Voilà. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas se limiter à un seul dispositif. Alors bon, un enseignant référent, il a, on va dire, il suit 16 étudiants, donc ça limite déjà le nombre. Mais il y a d'autres dispositifs qui sont mis en place justement pour les accompagner dans la définition de leur projet. Et je rebondis sur ce qu'a dit Madame Orange. En fait, nous, on essaie de les stimuler pour réfléchir à ce projet. En amont, d'ailleurs, on a mis en place dans le cadre de la nouvelle maquette de formation une unité d'enseignement qui s'appelle orientation insertion professionnelle que tous les étudiants inscrits à l'UPMC doivent suivre. Et c'est pas plus, ça fait partie de la motivation pour réussir en première année, mais c'est surtout parce que les étudiants à l'université sont acteurs de leur formation, c'est-à-dire qu'ils font des choix. Par exemple chez nous, dès le second semestre de la première année, et c'est pour minimiser les erreurs d'orientation justement. Mais alors, comment on fait pour suivre un étudiant et les réorienter? Après les évaluations, on regarde les résultats, on discute avec les étudiants et on propose des solutions. Et donc on a des solutions à leur proposer, ça se fait en discussion avec eux, bien sûr, il faut qu'ils soient volontaires. Et s'ils sont d'accord, on a mis en place un certain nombre de dispositifs de réorientation. Si vous voulez que je vous donne un exemple.
Oui, allez-y, jusqu'au bout de votre exemple.
Une expérience qu'on a mis en place cette année, c'est avec l'INSTA, donc l'Institut National Supérieur de Technologie Avancée, avec qui on a mis en place un dispositif de réorientation pour les étudiants qui ont compris dès le premier semestre qu'ils n'étaient pas à leur place, justement, qui se sont retrouvés à l'université sans un vrai projet. On leur a proposé une préparation en informatique. Il y en a beaucoup d'entre eux qui vont intégrer le BTS en deuxième année.
Voilà. D'accord, donc on réoriente de l'université vers le BTS. Moi, ce que j'entends dans tout ce que vous dites, c'est que nous sommes à l'intérieur d'une institution qui est en plein questionnement. Et que ce questionnement, il arrive de par ce nouveau public, cette massification dont j'ai parlé au début, et de par cette espèce de pression, qui est une pression politique, qui est aussi la pression qui est due à l'échec, quand même, dont il faut parler, des étudiants en licence, et que cet accueil, cet accompagnement, vous cherchez des solutions pied à pied pour résoudre ces problèmes sans qu'on ait trouvé la solution au niveau global pour repenser l'université d'aujourd'hui par rapport à ces problématiques, la massification en particulier, dont j'ai parlé, Fabrice Chemla.
Oui, alors c'est clair que la massification d'enseignement supérieur s'est tout particulièrement fait sentir au niveau des universités, avec effectivement déjà le premier choc avec l'augmentation de la population issue du baccalauréat général, et puis là, dans les années qui viennent de s'écouler, l'augmentation très très importante des bacheliers technologiques et professionnels. Parce que vous avez cité tout à l'heure 80% de la classe d'âge au baccalauréat. Soyons clairs, il y a très peu de temps, c'était 60%. L'augmentation dans les dernières années, elle vient principalement des bacheliers professionnels. Et à qui maintenant et maintenant, on demande à l'université de trouver des débouchés à ses étudiants issus de bacheliers professionnels. Et je dois le dire, l'université, face à ça, elle est relativement désarmée, surtout dans les filières générales.
Sophie Orange, sur ce point, les bacheliers professionnels, c'est ça le problème de la fac aujourd'hui ?
Je ne pense pas que ce soit le problème de la fac.
Je dis non. Des choses de façon radicale.
Mais effectivement, que l'université soit désarmée pour accueillir un public qui est hétérogène et qui n'est pas préparé de la même manière à justement cette autonomie dont on parlait tout à l'heure. Hein. Les bacheliers professionnels, ils ne sont pas habitués au cours de leur cursus dans le secondaire à travailler en autonomie, à essayer de décoder un peu les attendus professoraux, etc. Et donc, c'est vrai qu'il y a une distance à parcourir pour eux pour pouvoir s'intégrer à l'université et suivre dans les enseignements. Mais ce qu'il faut dire, c'est que les bacheliers professionnels, effectivement, ils ont fortement augmenté, mais ils ne sont que, 7% à l'université et on a 15% de bacheliers technologiques. Donc l'invasion des bacheliers professionnels, elle n'est pas tout à fait réelle à l'université.
50% des étudiants échouent aujourd'hui en première année à l'université. C'est une véritable sélection par l'échec et c'est un formidable gâchis humain. Réduire de moitié ce taux d'échec, c'est possible et c'est toute l'ambition du plan Réussir en licence qui sera lancé dès septembre dans toutes les universités de France.
Voilà, un plan lancé en 2008, puis arrêté en 2012. C'était Valérie Pécresse qu'on entendait. Pourquoi je vous fais entendre ça? C'est parce que ces moyens qu'on donne à l'université, ils changent quand même un petit peu souvent, tous les ans. Ce plan licence qui a été mis en place par un gouvernement de droite donnait tout de même un petit peu plus de moyens aux universitaires qui souvent s'opposent, aux universitaires de gauche qui s'opposent à ces gouvernements, qui sont beaucoup opposés à Valérie Pécresse sur des tas de dossiers, mais que là, c'est la gauche qui a retiré ses moyens. Sophie Orange.
Actuellement, effectivement, l'université a du mal à accueillir correctement les bacheliers parce qu'il y a effectivement peu de moyens pour le premier cycle universitaire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire des groupes de TD qui sont extrêmement chargés. Donc forcément, c'est difficile pour ceux qui ont le moins les moyens de travailler en autonomie ou de travailler par eux-mêmes. Et puis, la pénurie budgétaire, elle se fait sentir également au niveau de l'encadrement et du fait qu'il y a de moins en moins de recrutement. Donc, ceux qui sont amenés à enseigner en premier cycle, c'est surtout des enseignants qui sont en début de carrière. Ça peut être des doctorants, ça peut être des enseignants vacataires. Et très peu, en fait, d'enseignants qui ont le plus d'expérience sont confrontés au premier cycle. Donc, ça pose aussi une difficulté.
Ça me rappelle des trucs au collège et au lycée. Fabrice Chemla.
Oui, là-dessus, je crois qu'il ne faut pas se tromper non plus. Hein. Il est clair que l'échec en licence a été pointé par Valérie Pécresse, mais bien évidemment, elle confrontait ça à des chiffres issus d'autres filières de l'enseignement supérieur qui ne sont bien évidemment pas comparables. On ne peut pas comparer des filières dans lesquelles, effectivement, il n'y a pas de sélection à l'entrée avec des filières dans lesquelles il y a une sélection. L'objectif, comme c'est encore le cas actuellement, que l'objectif, un des objectifs principaux de l'université, c'est la réussite, par exemple, comme on nous
Pardon
dit, la réussite Non, j'ai pas fini ma phrase, excusez-moi.
Finissez-la, parce
la
que
réussite
je suis pas
en
tranquille.
Licence en 3 ans. Ça, c'est quelque chose, je crois, qui est effectivement un contresens, et tout particulièrement dans le milieu universitaire. Parce que cette notion qui a été maintenue par le gouvernement actuel d'obligation ou d'évaluation des universités sur des bases de taux de réussite en 3 ans, déjà, ça part du principe qu'effectivement, il y a un objectif chiffré. Est-ce que réellement, on n'a pas le droit de se poser la question de savoir si la mise en place d'un objectif chiffré sur la réussite à un diplôme ne peut pas être contre-productif ? Regardons ce qui s'est passé au niveau du baccalauréat. Ça, c'est un premier point. Et un deuxième point, c'est qu'effectivement, réussite à la licence, c'est déjà quelque chose, mais en 3 ans, ça signifie que ça interdit de fait aux étudiants toute possibilité de réorientation, de changement de profil professionnel, d'année sabbatique, etc., etc. Et ça, pour nous, c'est un véritable questionnement.
Blink 182 Going Away to College. Il paraît que c'est ce qu'on écoute sur les campus américains. Et c'est pas pour rien que nous avons choisi cette chanson avec Alexandra Malka. On dit Welcome Week, on dit pas bienvenue. On écoute évidemment de la musique anglo-saxonne. Bon, ça c'est normal. On a parlé du modèle des grandes écoles. Moi, j'ai plutôt vu un modèle à l'américaine, ce fameux modèle du campus qu'on connaît bien. Après tout, si on n'a pas fréquenté l'université en France, on sait très bien comment fonctionnent les campus américains avec les confréries, les fratries, avec toute cette voilà, les pom-pom girls, toute cette imagerie activée dans des films et des livres du lauréat American Pie pour la cinématographie. Alors, est-ce que c'est un modèle pour vous, ce modèle américain qui est à la fois sélectif, payant, évidemment, tout le monde va nous le dire, un modèle de ce que ça peut être l'université dans la société ? Fabrice Chemla, vous rigolez.
Non, je trouve ça très intéressant comme discours, effectivement. Notre modèle, ce n'est pas les grandes écoles, c'est beaucoup plus quelque chose qui ressemble alors, à ce qu'il y a de bon dans l'université américaine, parce que vous l'avez dit, les universités
pas
américaines.
Pas les 40 000 dollars par an.
Évidemment, nous ne sommes pas du tout pour les 40 000 dollars. Mais néanmoins, il est intéressant de constater qu'aux États-Unis, lorsqu'on pose la question à un ancien étudiant d'où est-ce qu'il vient, la première des choses qu'il dit, c'est l'université dans laquelle il est rentré après l'équivalent du baccalauréat. C'est son alma mater. C'est effectivement l'université dans laquelle il a fait sa première année d'études. Lorsqu'on pose la question en France, c'est la dernière année d'études qui sert de référence. Et ça, je trouve ça dramatique pour l'université. Aucun étudiant venu d'une école d'ingénieur dira « j'ai fait mes études dans telle école d'ingénieur ». Il ne dira pas « j'ai fait des études en classe préparatoire de tel lycée ». Et c'est aussi sauf 2 ou 3 lycées particulièrement bien connus, pour d'autres raisons. Mais, et ça, c'est vrai aussi au niveau de l'université. Les étudiants ont beaucoup de mal à considérer que dès leur première année à l'université, ils font partie intégrante de l'université, et c'est celle-là, et pourtant c'est la réalité, c'est celle-là qui va guider l'ensemble de leur cursus par la suite.
Julie Trancard, alors un, est-ce que vous pouvez promettre à Fabrice Chemla que vous direz toute votre vie que vous avez commencé vos études à l'UPMC? Et deuxièmement, est-ce que vous venez de banlieue, donc je crois.
Oui, c'est ça.
Est-ce que vous vous sentez appartenir à cette université? Est-ce que vous avez le sentiment d'en être, peut-être comme vous apparteniez davantage à votre lycée? Est-ce qu'ici, c'est votre territoire? Mais vous portez un badge, I love UPMC, je dois le dire à nos auditeurs.
Bah écoutez, je pense que pour l'instant, ça va, je me sens vraiment dans l'université. Bon, il faut encore que j'en fasse vraiment le tour. Après tout, je viens d'arriver. Et je pense que si la plupart des étudiants ne parlent pas vraiment de l'université d'où ils viennent, c'est parce que l'université de base... beaucoup se sentent anonymes et je pense que ça change pour une fois qu'on est un étudiant référent, qu'on fasse des welcome week, des petites choses, qu'on découvre les élèves, parce que c'est vrai que j'ai pas parlé avec énormément de monde et je me sentais un peu seule, et de mettre en place tout ça, ça permet de rencontrer des gens et de s'intégrer plus facilement.
Mais pourtant, il y a une autre tradition qui est bien française, c'est le syndicalisme étudiant. C'était aussi une école pour les étudiants, une école politique, mais une école aussi qui les socialisait, école évidemment dans un certain sens du terme. Sophie Orange, pour continuer sur ces comparaisons, et peut-être pas que avec les États-Unis, mais la place de l'université dans la société française, même la place des universitaires dans la société française, on sait, les sociologues l'étudient également, elle n'est pas très brillante si on compare même par exemple à nos voisins allemands.
Oui, c'est un peu l'objectif qu'on avait avec Romuald Baudin quand on a écrit le livre « L'université n'est pas en crise ». C'était d'essayer de tordre un peu le cou à un certain nombre d'idées reçues sur l'université qui font qu'on a l'impression que eh bien, si elle dysfonctionne à l'heure actuelle, c'est parce que les enseignants seraient un peu isolés dans leur tour d'ivoire, que les étudiants seraient toujours plus mauvais, en fait, donc le niveau baisserait. Et qu'on aurait un modèle qui serait voué en fait à ne pas fonctionner parce que non sélectif, etc. Et nous, ce qu'on a voulu montrer, c'est que en fait, on a quelque chose qui est complètement différent. On a des enseignants qui sont tout à fait intégrés à la vie économique et sociale. On a un niveau des étudiants dont on ne peut pas dire qu'il baisse. On peut dire effectivement que les étudiants ne sont plus les mêmes que dans les années 60, ça c'est sûr. Mais de là à dire que le niveau baisse, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à évaluer, à mesurer. On parlait tout à l'heure de quantifier les choses. Et de la même manière, pour ce qui est du système universitaire qui dysfonctionnerait, on a entendu tout à l'heure Valérie Pécresse et les 50% d'abandon ou d'échecs en licence. Nous, ce qu'on a montré avec Romuald Baudin, c'est bien qu'en fait, l'abandon ou l'échec ou la réorientation, c'est pas du tout une exclusivité de l'université, mais c'est quelque chose qui existe en classe préparatoire, c'est quelque chose qui existe dans les écoles après le baccalauréat, qui existe en BTS, qui existe en IUT, etc., et qui finalement se fait un peu dans les mêmes proportions, en fait. Sauf que ce qu'on peut dire pour l'université, c'est que, eh bien, un abandon à l'issue de la première année d'université se traduit beaucoup plus par une réorientation réussie dans une autre filière de l'enseignement supérieur qu'un abandon à l'issue d'une première année de BTS.
Bien accueillir les étudiants à l'université, c'est peut-être aussi la défendre. En tout cas, c'est ce qu'on entend aujourd'hui. Mais Libby Cousteau a une question pour vous, Sophie Orange, et pour vous, Fabrice Chemla.
Oui, je voudrais revenir juste sur l'orientation et la réorientation, parce que ce sont deux choses distinctes, bien sûr. Dans un récent interview à EducPro, la sociologue que vous devez connaître, Marie Durubella, évoquait la problématique de l'orientation des lycéens. Certains atterrissent sur les bancs de la fac sans trop savoir ce qu'ils vont y faire, simplement parce qu'ils n'ont pas été pris ailleurs, disait-elle. La France, c'est un des rares pays où le bac est le seul diplôme nécessaire pour entrer à l'université, question d'égalité, dit-on. Mais en réalité, beaucoup s'accordent sur ce point. Aujourd'hui, le système français pratique une sélection par l'échec. L'échec dès la première année, en réalité, ce qui peut être terrible pour un jeune de 19-20 ans. Il y a donc une forme d'hypocrisie, selon moi, voire de malhonnêteté du système à l'égard des jeunes qui consiste à leur faire croire qu'ils peuvent tous réussir. Alors, ma question arrive. N'est-il pas urgent aujourd'hui de mettre sur la table cette question de l'orientation ? C'est-à-dire de repenser complètement l'orientation des lycéens, voire de pratiquer, comme le disait encore Marie Durubella, une sociologue réputée pourtant à gauche, une orientation mécanique autoritaire. Donc, ne faut-il pas accepter enfin d'introduire à l'université une sélection des étudiants, pour employer un terme totalement tabou en France ? Voilà. Qu'en pensez-vous, l'un et l'autre ?
Moi, je veux bien commencer à répondre
Sophie
là-dessus.
Orange.
Donc, effectivement, il faudrait peut-être repenser l'orientation dans l'enseignement supérieur, mais déjà,
arrive encore assez souvent d'entendre dans les lycées que certains enseignants ne savent même pas que l'université existe, ou s'ils le savent, c'est forcément la filière par défaut, et c'est comme ça qu'ils le présentent aux étudiants, aux futurs étudiants. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut changer. Mais c'est un peu la logique qui est en cours depuis un certain nombre d'années du continuum, du fameux continuum Bac-3, Bac plus 3.
Ah oui, justement, je voulais vous en parler. C'est la logique qui prévaut aujourd'hui dans le pour le gouvernement précédent et encore pour la ministre actuelle, qui est tout de même ministre des deux, hein, de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, ce qui donnerait du sens à ce continuum. Vous, ça vous choque qu'on dise Bac-3, Bac plus 3 c'est, puisque beaucoup d'étudiants continuent dans diverses filières. Pourquoi être choqué?
Alors moi, ça me choque, pas sur le concept de la continuité, de la nécessaire préparation, je dirais, d'entrer à l'université ou dans l'enseignement supérieur du manière générale à partir du lycée. Ça, pour moi, c'est quelque chose effectivement de très très important. Les lycéens doivent savoir et doivent s'orienter le plus possible en connaissance de cause. Ça, je suis tout à fait d'accord. Néanmoins, je crains, et c'est une crainte qui est largement partagée, que ce continuum Bac-3, Bac+3 ne soit vu que comme une secondarisation de l'enseignement supérieur, alors que ça devrait être une universitarisation du secondaire. Et ça,
sujet de débat. Et ça, à mon avis, on y reviendra, parce que dans Rue des Écoles, au cours d'une autre émission, il y a un sujet dont je voulais vous parler, parce que on peut avoir toute la bonne volonté du monde, on peut mettre en place des moyens humains. L'université française, elle est pauvre.
En France, on a un vrai problème de dépenses dans la recherche et développement, et surtout, ce qui me frappe, pour avoir été un peu des deux côtés de l'Atlantique, et pourtant c'est pas que la comparaison France-États-Unis, en fait on prend un retard aussi croissant par rapport à l'Asie, c'est la faiblesse de nos universités. Allez dans nos salles de classe, allez dans les universités, dans les plus grandes universités parisiennes, vous avez des salles de classe qui sont pas équipées en ordinateur. Donc vous êtes professeur, vous allez donner un cours, vous pouvez même pas diffuser, et on n'investit plus là-dedans, on n'investit pas dans l'avenir. Donc il y a peut-être des policiers en plus, on n'a pas augmenté le nombre d'enseignants-chercheurs, on n'a pas augmenté le nombre de professeurs d'université, on n'a pas augmenté en fait les ressources qui sont destinées chaque année à la formation, alors qu'on sait très bien qu'on a un nombre croissant d'individus qui sortent de l'université française aujourd'hui sans être formés. Et ça explique la défiance, ça explique la défiance de l'ensemble de la population et aussi des jeunes aujourd'hui qui ne voient pas d'avenir parce qu'ils n'ont pas de diplôme, ils n'ont pas de formation et ils sont dans un contexte d'austérité croissante.
La vie universitaire en noir, c'était l'économiste Julia Cagé qui était l'invitée de Dimanche et après d'Olivia Gesbert, donc à 18h sur France Culture tous les dimanches. Et en entendant, je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous fasse écouter ce passage. Est-ce que ce constat d'éploration des faibles moyens attribués aux universités françaises, est-ce que vous le partagez, Sophie Orange?
Bah oui, complètement. Moi, c'est quelque chose que je vois dans mon université à Nantes, où on a des difficultés pour pouvoir dédoubler des groupes de TD parce qu'on n'a pas les moyens financiers, parce qu'on n'a pas les moyens en termes d'enseignants-chercheurs pour encadrer ces cours. Et ça fait qu'on peut se retrouver dans des situations où on a 50 étudiants qui sont en cours de statistique en salle informatique avec 12 postes informatiques.
Bah donc, difficile de parler du bon accueil des étudiants quand on n'a pas les moyens matériels. Et encore, on ne parle pas des universités où il n'y a pas de toilettes, des salles qui sont fermées, des préfabriqués où il pleut. Fabrice Chemla, vous n'êtes pas responsable de cette situation, mais
oui,
ça existe.
Là, je vais avoir un petit peu de mal à intervenir sur l'ensemble des universités parce que les situations sont très disparates. Il est clair qu'il y a un véritable manque de moyens, mais ça a été pointé depuis de très nombreuses années. Lorsqu'on regarde les chiffres officiels, on s'aperçoit que finalement, la subvention que l'État donne par étudiant pour une université tourne autour de 7 000 à 8 000 euros par étudiant et par an. Lorsqu'il s'agit d'une école d'ingénieurs, ça monte à 10 000 euros par étudiant et par an. Et lorsqu'il s'agit d'une classe préparatoire, nous sommes à 15 000 euros par étudiant et par an. Donc ça, c'est clair qu'il y a des disparités. Mais au-delà de ce problème de moyens, ce problème de moyens qui est effectivement très important dans les universités, il empêche surtout les universités à s'adapter facilement aux profils différents des étudiants qui arrivent. Il est clair que lorsqu'il s'agit de mettre des cours en ligne, et encore à l'UPMC nous avons beaucoup de cours en ligne et nous sommes en train de développer fortement le travail là-dessus, mais ça demande effectivement une mise de moyens, une mise de fonds, un investissement non négligeable. Et ça, c'est clair que les universités, la plupart des universités maintenant, ne peuvent plus le faire. Et malheureusement, l'avenir, même si on peut espérer, et je touche du bois, que les budgets de l'enseignement supérieur restent relativement constants l'an prochain, je touche du bois et le bois se dérobe quelquefois sous nos pas, il est clair que nous sommes dans une situation difficile. Et ça, c'est quelque chose... Alors, il y a eu effectivement dans le passé, et c'est le gouvernement Sarkozy qui l'a mis en place, c'est Valérie Pécresse, il y a eu les investissements d'avenir qui ont effectivement apporté un petit peu d'eau au moulin des universités, mais il faut reconnaître que ce n'est pas général. Bon, à l'UPMC, nous en avons bénéficié, donc dans le cadre de Sorbonne Université, nous sommes en train de mettre en place... Ça, c'est une commune dont vous avez parlé tout à l'heure.
On va en parler dans 2 minutes, 5 minutes.
Nous sommes en train de mettre en place un certain nombre d'actions, mais néanmoins, il est clair que ce serait souhaitable que toutes les universités puissent en avoir un petit pouls.
Avec des moyens qui fluctuent tout de même, on l'entend. Et puis quand on est étudiant, il n'y a pas que l'université, il y a beaucoup d'autres problèmes. On connaît aujourd'hui mieux la situation des étudiants pauvres, mais même quand on n'est pas pauvre... Il y a un gros souci pour les étudiants aujourd'hui.
Moi, je suis en BTS deuxième année, à plus de 2h30 de transport de mon lycée. Et j'ai un bus le matin, un bus le soir. Donc le bus, il m'emmène à 9h30. Quand je commence à 8h, je fais comment? Je loge devant le lycée, je fais quoi? On nous dit dans le parc privé. Dans le parc privé, c'est le double. On n'est pas Crésus, hein. Moi, c'est ma bourse qui me paye mon logement. J'ai pas d'autres moyens. 446 euros par mois, en comptant si je peux avoir les APL, ça, plus le loyer, plus la bouffe, à la fin, on ne fait plus rien, quoi. À la fin, si on respire, c'est déjà bien.
Un son diffusé sur France Inter lundi à 19h. Lundi, Geneviève Fiorazzo présentait avec Najat Vallaud-Belkacem le dispositif CLÉ, un magnifique acronyme pour parler du logement étudiant. Donc, c'est ne pas avoir de caution à payer pour des étudiants, pour leur permettre de se loger. On vit une grande ville, je le disais. Vous êtes en banlieue, d'ailleurs, tous les deux, Génanon aussi, avec du temps de transport. Vous habitez, est-ce que vous habitez chez vos parents?
Moi, oui.
Est-ce que c'est imaginable de louer un appartement pour vous aujourd'hui?
Franchement, avec les logements étudiants, c'est vrai qu'ils sont beaucoup demandés. Je pense que là, il n'y a même plus de place. Mais,
Julie, sur ce sujet.
T'as presque 2 heures de transport, donc le matin et le soir, ça fait assez long. J'ai fait des demandes pour des logements, sauf que c'est toujours trop cher. Le CROUS, j'ai toujours pas eu de réponse d'ailleurs. C'est juste misérable d'habiter à presque 2 heures de transport et de ne pas avoir de logement, d'avoir rien du tout parce que c'est trop cher et parce que c'est pas possible.
Parce que de ce point de vue-là, le terme « bienvenue à la fac », même si on l'a entendu, vous êtes plutôt heureuse d'être ici. Il ne perd pas un peu de son sens, parce que « bienvenue dans la vie étudiante », c'est « bienvenue dans la galère ».
Oui, quelque part aussi, parce que l'université a beau être très très bien, j'estime que les logements qu'il y a autour, il n'y en a pas assez, et qu'à Paris, c'est trop cher. Là, ce soir, je vais encore courir pour avoir mon train. Donc, ça fait vraiment plaisir d'être ici, d'être bien accueillie, et ça compense un peu le fait d'être loin.
Parce que les loyers à Paris 5e, évidemment, c'est très très cher. Sophie Orange, ces conditions matérielles, vous qui êtes sociologue, cette massification, c'est aussi une précarisation du public étudiant. On a beau tout faire pour mieux les accueillir pédagogiquement, on va dire, et les aider à rentrer de plein pied dans cette vie étudiante, on se heurte à des problèmes insolubles.
Oui, complètement. Et il se trouve que c'est toujours les mêmes étudiants qui vont cumuler en fait toutes les problématiques, c'est-à-dire ce sont les bacheliers technologiques et professionnels qui sont souvent issus de milieux modestes et donc qui ne vont pas avoir les moyens de pouvoir habiter près de l'université, qui vont devoir prendre le train assez tôt le soir pour en repartir et qui ne vont pas forcément pouvoir aller au cinéma ou aller aux soirées organisées par exemple avec l'université, qui participent aussi de toute cette socialisation, de cette intégration, et donc ça va être plus difficile pour eux de s'intégrer et d'être tenus en fait par cette université, et ça aussi ça participe de la réussite des étudiants et du fait qu'ils se découragent moins, même si c'est difficile.
Alors qu'est-ce que ça pourrait être des conditions idéales, si on parle d'accueil un petit peu pour améliorer cet accueil au-delà de ce que vous pouvez faire avec les moyens fluctuants dont vous disposez? Najat Takvorian. Je vous voyais acquiescer au propos de Sophie Orange.
J'acquiesçais sur le fait qu'effectivement, souvent, les étudiants qui ont des problèmes, ils les cumulent. Hein, et donc, effectivement, on assiste à un cumul de problèmes qui deviennent un frein à leur intégration et à leur réussite. Moi, je dirais que nous, on déploie les moyens qu'on a à notre disposition pour pouvoir les aider au maximum. Mais après, au niveau de tout ce qui est problème qui sortent de nos responsabilités, je dirais que c'est pas à nous
évidemment
de donner ces solutions-là.
Fabrice Chemla.
Oui, alors à l'UPMC, dans le cadre justement de Sorbonne Université, la commune dont on parlera pas. Nous sommes en train de développer des programmes différents pour pouvoir soutenir effectivement les étudiants qui sont en difficulté. Donc des programmes d'emploi étudiant. Nous estimons que ce serait quand même mieux que les étudiants plutôt que d'aller travailler
avec les cours et 4 heures de transport par jour, ça va être compliqué de travailler.
C'est des emplois étudiants qui sont normalement mis en place pour en tenant compte de leurs emplois du temps. Donc effectivement, des emplois dans les bibliothèques, des emplois d'accueil. Là, vous avez été accueillis par des étudiants qui sont les pilotes, qui sont en fait des emplois étudiants. Nous avons aussi des programmes de bourses, de compléments de bourses pour les étudiants. Alors ça, c'est des bourses sur 5 ans. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'avoir une bourse pour un an, avec une difficulté à savoir si elle allait être renouvelée l'année d'après, c'est difficile pour un étudiant. Il ne peut pas engager une réflexion sur le long terme. Alors qu'effectivement, lui procurer un engagement sur 5 ans, ça a du sens. Donc on a certains programmes qui viennent des investissements d'avenir, mais c'est vrai que nos moyens là-dessus sont assez limités.
Ah, je croyais qu'on allait terminer sur une note positive. Allez, tout de suite, la dernière partie de l'émission.
France Culture, rue des Écoles. Grand amphi.
C'est l'actualité, les enjeux du supérieur en partenariat avec l'étudiant.fr. Cette semaine, dans Grand amphi, nous nous intéressons aux COMUS et regroupements d'universités et d'écoles, mesure phare de la loi Fioraso de juillet sur l'enseignement supérieur et la recherche. Une réforme toute neuve, mais qu'une partie de la communauté, Marie-Caroline Missire, a bien du mal à avaler.
Oui, c'est peu dire, Louise. Les COMUS, pour reprendre ce sigle, ont même suscité une véritable bataille rangée au printemps et au début de l'été entre partisans et opposants de la réforme par clubs secrets interposés. pour la réforme, le groupe Marc Bloch, qui réunit des hauts fonctionnaires et que nous aurons l'occasion de recevoir dans l'émission, et contre le groupe Jean-Pierre Vernon, du nom d'un grand historien, anthropologue et résistant, et qui revendique une soixantaine d'universitaires. Alors nous recevons aujourd'hui, et je crois que c'est la première fois dans un média audiovisuel, l'un de ses représentants, Bruno Andréotti, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes professeur à l'Université Paris 7 et plus exactement chercheur au laboratoire de physique et mécanique des milieux hétérogènes, je ne me trompe pas?
Non, non, c'est tout à fait ça.
Alors première question, pourquoi avoir lancé un club secret quand il y a des tas de structures, il y a des syndicats par exemple, et qu'est-ce que vous reprochez aux communes?
Alors pourquoi avoir lancé un club? Ça c'est immédiatement après l'élection de François Hollande, il est apparu que les personnes qui ont été nommées dans les cabinets ministériels et qui ont pris en main le supérieur étaient tout sauf de gauche et étaient essentiellement les mêmes que pendant la mandature précédente, avec certains se sont refait une virginité au dernier moment en étant les résistants de la 25e heure.
Pour qu'on soit bien clair pour tout le monde, vous visez l'entourage de la ministre actuelle dans vos propos?
L'entourage de la ministre, l'entourage du président, la direction de la CPU, enfin, l'essentiel des manettes du supérieur est dans un petit cercle fermé.
Il n'y a pas un peu de théorie du complot là dans ce que vous...
Non, non, il n'y a pas du tout de théorie. Ils ont publié dans la presse sous leur nom, groupe Marc Bloch, en se cachant, mais c'est tout.
On les recevra, mais venons-en au commu. Est-ce que vous reprochez au commu?
De notre côté, on s'est constitué comme force de proposition pour proposer un projet alternatif à ces communes, qui a été très bien reçu par la représentation nationale, qui a été intégré à la loi. Les sénateurs du front de gauche jusqu'au centre l'ont accepté et intégré. Suite à quoi, il y a eu un tir de barrage pendant un an pour que ça puisse pas être en place.
Votre opposition aux communes, qui sont, alors, je le rappelle, des regroupements d'universités et d'établissements.
Donc c'est une des deux modalités qui existent, l'autre ayant été refusée, enfin bloquée. Et ce qu'on reproche à cette réforme, c'est essentiellement d'être un cheval de Troie pour une toute autre réforme que ce qu'elle est censée viser.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire, alors, ce qu'elle était supposée faire, cette réforme, c'était s'attaquer frontalement à un certain nombre d'aberrations du système français.
Et par exemple?
Et revenir au fonctionnement des grandes universités internationales, les Pays-Bas par exemple, qui sont un grand système public. Alors, quelles sont ces aberrations? On peut en énumérer rapidement quelques-unes. D'abord, les universités de qualité internationale sont omnidisciplinaires. Elles ne sont pas sur le modèle facultaire comme l'UPMC qui n'a pas de sciences humaines. Donc il y avait cette idée d'avoir des universités qui restent à taille humaine, 20 000 étudiants, mais qui soient équilibrées entre l'ensemble des disciplines. Alors ça, ce n'est pas le cas. On a des regroupements. Le mien fait 120 000 étudiants. Je ne sais pas si vous voyez, c'est 10 fois plus que Harvard, c'est 10 fois plus que les 15 premières plus grandes universités mondiales. C'est un monstre.
Et pourtant, l'idée d'aller vers des établissements qui se regroupent, donc qui sont plus visibles au niveau international, qui sont plus forts, tout ça, c'est quand même bon pour ces établissements et bon pour les étudiants. Donc.
Alors, c'est pas tout à fait gagné qu'ils soient plus visibles. Par exemple, les pionniers en la matière, Strasbourg, Marseille, sont pas du tout montés dans les classements internationaux. Ils sont descendus pour des raisons évidentes. Donc, la taille n'a rien à voir avec la visibilité. L'université d'Islamabad fait la même taille, 120 000 étudiants, elle n'est pas connue. Les Cambridge et Oxford ont un très petit nombre d'étudiants, donc ça n'a strictement rien à voir.
D'où vient cette idée, pardon Marie-Caroline, mais d'où vient cette idée? Alors, c'est pour faire des économies?
Okay. Alors, il y a plusieurs couches, mais une partie, c'est une réforme structurelle qui a été une manière d'ajouter une couche au millefeuille, de sorte à changer les modalités de gouvernance et à priver la communauté universitaire du droit de regard sur les choix d'enseignement, les choix de recherche. Donc, qui n'a strictement rien à voir avec l'objet apparent de la réforme. Pour d'autres aspects, ça ressemble aux réformes territoriales dont chacun peut se faire une idée de ce qu'elles recouvrent, c'est-à-dire c'est un peu flou.
Et alors, qu'est-ce que ça pose comme problème concret pour cette rentrée, pour les communes qui sont déjà constituées, d'après ce que vous avez pu observer?
Alors, il y en a un très petit nombre qui est constitué. Il n'y en a que 4 sur les 25 qui sont prévus. Et ces problèmes sont très hétérogènes selon les endroits. Les problèmes ne se posent pas à l'identique à Strasbourg, dans lequel la communauté universitaire souhaitait une fusion qui remette une grande université pluridisciplinaire. Et par exemple, à Paris Intramuros, où nous sommes, dans lequel les sciences dures, les mathématiques, la physique, la chimie, ont été littéralement fracturées par le découpage. Ce découpage est aberrant, ne recouvre aucune réalité. Par exemple, la médaille Fields d'il y a 15 jours, il est dans un laboratoire qui est entre mon université et celle où nous sommes. Eh bien, il y a des murailles qui poussent cet endroit-là.
Sur le site de l'UPMC, il y a écrit qu'il vient d'ici. Hein.
Oui, absolument, mais il est au même titre dans mon université Paris 7. Mais simplement, ce laboratoire-là va être totalement tiraillé par un découpage qui s'est fait contre la volonté des communautés universitaires.
Alors là, vous pointez des problèmes de gouvernance, des problèmes administratifs, mais pour le quotidien des étudiants, est-ce que ces communs vont le perturber ou au contraire l'améliorer? J'imagine que vous ne pensez pas que ça va l'améliorer, mais pour leur quotidien à eux.
Alors, à nouveau, ça dépend des endroits. Pour les premiers cycles universitaires, dans la mesure où le système APB fait la distribution d'étudiants, il n'y a pas de différence majeure. Les différences, elles se jouent sur le master. Et à nouveau, ça dépend des endroits. Par exemple, à Paris Sud, eh bien, littéralement, la couche de master a été prélevée de l'université pour être concédée aux grandes écoles qui sont autour. Donc là, on a un changement majeur qui va tendre dans les prochaines années à transformer l'université en étant un collégium d'enseignement de masse et puis la recherche se faisant autour, donc des changements relativement Alors, importants.
Qu'est-ce que vous auriez préconisé? Vous avez dit que vous avez essayé d'alerter la représentation nationale pendant le vote de la loi, mais vous auriez aimé quel type de réforme?
Alors, l'autre modalité qui donc a été bloquée par le ministère alors que le Sénat l'a fait passer, c'était dans l'idée de rompre avec le modèle pyramidal d'organisation pour aller vers des petits ensembles qui fassent cette taille humaine de 20 000 étudiants, au plus près des étudiants, au plus près de la paillasse, et organiser en réseau, c'est-à-dire rompant avec la tradition napoléonienne, qui aurait eu un coût beaucoup plus faible que les communes, dont le coût est entre 10 et 30 millions d'euros par an et par regroupement. C'est absolument monstrueux dans les circonstances actuelles et qui se découpe au plus près des coopérations réelles, contrairement à ce qui s'est passé, qui est au plus loin de ce que les remontées des communautés universitaires ont fait.
Alors, dernière question, vous avez choisi de vous appeler Jean-Pierre Vernant. Je rappelle que Jean-Pierre Vernant était aussi un résistant très proche du PC. Vous définissez comme un groupe politique. Est-ce que vous avez des ambitions avec les universitaires qui vous suivent de poursuivre votre combat, entre guillemets?
Alors, non, pas sous cette appellation-là, individuellement, sans doute. Donc, l'appellation Vernant, elle était d'abord pour faire pendant au groupe Marc Bloch qui avait choisi un nom de grand résistant. Et ensuite, parce que Vernant n'a pas été proche du PC, mais très critique avec son camp. Donc nous, avec la gauche de gouvernement, avec le PS et les écologistes, on est aussi extrêmement critique par rapport à notre
camp. On l'a parfaitement entendu dans vos propos. Je vous remercie.
Merci Bruno Andréotti. Merci Marie-Caroline. On se retrouve la semaine prochaine pour Grand Amphi à 15h50, rue des Écoles. C'est à 15h. Nous avons invité deux auteurs la semaine prochaine, auteurs remarqués de cette rentrée littéraire et scolaire, Mara Goyer, qu'on connaît bien à France Culture, et un inspecteur général, Roger-François Gauthier, qui s'interroge sur la notion de programme. Aujourd'hui, notez bien le sujet de Sciences Publiques, vendredi à 14h. Comment la France peut réussir face à la concurrence internationale. Tiens, tiens, et pour débattre de cette question, Michel Alberganti recevra entre autres Geneviève Fioraso, la secrétaire d'État chargée de l'enseignement supérieur et la recherche, bien sûr.